de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Dominique Dezonnet.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Autour de la question qui se demande aujourd'hui pourquoi et de quoi est composée la matière et quelles sont ses propriétés. Une question d'ailleurs que se posaient déjà les Grecs qui ont très tôt imaginé que la nature qui les entourait était faite de grains, de matière invisible. Des grains qui donnent à la matière sa forme, son poids peut-être et sa masse, sa résistance, ses propriétés. Oui, ce sont les atomes, du grec atomos qui veut dire indivisible. Depuis, on sait que les atomes sont composés de particules, que certaines de ces particules sont elles-mêmes composite et que si une particule a une masse, elle le doit aux propriétés d'un petit bout de matière qu'on a encore du mal à identifier. Comment vient la masse aux particules ? C'est tout l'enjeu des expériences du grand accélérateur de particules, le LHC, avec deux expériences menées actuellement qui vont nous dévoiler l'un des grands mystères de l'univers. C'est la chasse au boson de Higgs. Higgs, du nom du savant qui l'a imaginé, Peter Higgs. Dans Autour de la question, nous plongerons dans cet infiniment petit avec nos deux invités, Nathalie Besson, physicienne au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et Pascal Paganini, physicien des particules, chercheur au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique.
Eureka ! J'ai trouvé un moyen d'aller encore plus loin dans l'observation de la matière.
C'est une aventure scientifique et humaine absolument fantastique.
Les chercheurs du CERN ont construit le plus grand collisionneur de particules au monde. On l'appelle le LHC.
5, 4, 3, 2, 1, go.
Alors le but de cette grande expérience, c'est vraiment d'essayer de découvrir les particules fondamentales de notre univers.
Pendant très longtemps, on a considéré que la masse des objets était une propriété intrinsèque des objets. Toute substance est massive. Or, cette idée est contestée par les physiciens aujourd'hui qui se demandent si les particules n'auraient pas une masse du fait qu'elles interagissent avec ce qu'on appelle le vide.
On se dit que c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe ici. C'est fantastique.
Nathalie Besson, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous occupez au LHC du détecteur ATLAS, hein, le plus grand détecteur de particules polyvalent du monde. Alors, on ne va pas rentrer dans l'acronyme ATLAS, qu'on ne comprendrait pas bien. Vous allez nous dire pourquoi, en fait, il est si important de détecter cette particule mystérieuse qui est le boson de Higgs.
Mais en physique des particules, on explique la matière et les interactions entre les particules de matière avec un modèle qui s'appelle le modèle standard, qu'on a mis des dizaines d'années à construire avec des allers-retours entre l'expérience et la théorie. Ce modèle est très prédictif, ça veut dire que tout ce qu'il a prédit jusqu'à maintenant a été vérifié expérimentalement, sauf une chose, il prédit l'existence d'une particule qu'on appelle le boson de Higgs, et qui donnerait sa masse aux particules. Et celui-là, c'est la seule particule encore jamais observée.
Alors donc, il nous manque au tableau de chasse une particule. Cette expérience, en tout cas, qui fait appel à la puissance du grand collisionneur, LHC, en fait, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Hein. Elle a été imaginée il y a même plus de 25 ans.
Oui, plus de 25 ans, oui. Il faut être très persévérant quand on fait de la physique des particules, parce que on doit faire des années de recherche et développement avant d'être sûr d'avoir des détecteurs qui vont correspondre à ce qu'on va leur demander de faire, à savoir pouvoir détecter des particules de très haute énergie. Et donc, oui, il y a des gens qui verront pas, qui étaient au début de l'aventure du LHC et qui verront pas les résultats.
Ouais, c'est triste. Hein. Pascal Paganini, en tout cas, vous verrez peut-être les résultats. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous occupez, vous, d'un autre détecteur hors du commun, hein, branché sur la puissance que nous permet le LHC, un véritable titan très long, diamètre 15 mètres, une masse de 12 500 tonnes. Alors, ce détecteur s'appelle le CMS. C'est un peu moins sexy hein, qu'Atlas. Mais même s'il est très lourd, on a l'impression qu'il est deux fois plus petit en taille qu'Atlas. Atlas.
Oui, je confirme, c'est effectivement moins sexy qu'Atlas comme acronyme, mais le C de CMS signifie compact et il est beaucoup plus petit, bien qu'étant beaucoup plus lourd. Il est même plus lourd que la Tour Eiffel d'ailleurs, à titre de comparaison.
Pourquoi on fait deux expériences qui ont l'air avec ces détecteurs complètement convergentes ?
Eh bien, lorsque l'on recherche des choses nouvelles, on ne sait pas à l'avance exactement ce que l'on va trouver et donc on explore plusieurs pistes et notamment des technologies différentes au niveau des détecteurs pour être sûr de pouvoir couvrir le panel le plus large possible de découvertes.
Et puis on y reviendra, je crois que ça nous donne la possibilité d'avoir deux fois plus de données.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si on veut confirmer, déjà, si on veut confirmer une découverte, il est bien de le confirmer avec deux détecteurs indépendants.
Alors, avant de partir à la chasse à notre boson de Higgs, j'espère que vous êtes tous les deux de bons pédagogues. Vous allez nous expliquer de façon tout à fait imagée ce monde subatomique qui est rempli de particules qu'on a bien du mal généralement à imaginer. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles. Qu'est-ce qui les caractérise, en fait, ces particules? Le télibesson, peut-être?
Alors, les particules dans le modèle standard, on les a rangées dans des familles, trois familles. Il y a la première famille qui est connue d'à peu près tout le monde, puisque c'est celle qui contient les particules dites de matière ordinaire, qui nous composent. Il y a l'électron, léger, on les appelle des leptons, celles-ci, parce que lepton en grec, ça veut dire léger. Il y a le neutrino électronique, associé à l'électron.
C'est donc il y a une charge électrique.
Pour l'électron, pas pour le neutrino, neutre.
Voilà.
Et puis, il y a deux quarks, up et down, ou haut et bas, qui composent les neutrons et les protons. Donc ça, c'est les particules qui composent la matière ordinaire. Et puis, cette famille est répliquée deux fois, avec ce qu'on appelle une saveur différente. Il y a la famille du muon, avec le neutrino muonique et les quarks charmes et étranges.
Alors, puis... c'est quand même incroyable, là, on met un petit point, juste entre parenthèses. Les scientifiques, généralement, surtout dans le monde des particules, sont de véritables poètes.
Tout à fait, ça rend les choses jolies. Non, mais certains noms ont une histoire. Je crois que le charme, c'est parce que la théorie était bancale et n'expliquait pas tout. Et le charme a résolu beaucoup de problèmes. L'étrange, c'est parce que les particules qui sont composées du quark étrange avaient un comportement très, très bizarre. Et donc, le quark étrange s'appelle comme ça. Donc, il y a certains noms qui ont quand même voilà. Poétique, mais... une signification.
Alors ça, c'est la matière, on va dire, ordinaire, si j'ai bien compris, avec ces particules. Après, il y a tout le phénomène énergie. Je sais pas, moi, le photon, est-ce que c'est une particule ?
Alors, les particules dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant sont des fermions. Et ces particules interagissent entre elles en échangeant des bosons. Donc, il y a le photon, effectivement. Il y a les rigolos gluons.
Oui.
Et voilà, qui s'échangent entre quarks et qui font la cohésion dans les protons et les neutrons, par exemple.
C'est une véritable ménagerie, hein, quand même.
Totalement. On dit une zoologie même. Qui j'oublie. Il y a les bosons responsables de ce qu'on appelle la force faible.
Et alors, donc, force faible, c'est...
Parce qu'elle est beaucoup plus faible que la force forte. Alors,
oui,
là,
d'accord.
Beaucoup pas d'imagination du tout. Donc, il y a les W et le Z. W plus, W moins et Z qui est neutre. Et puis, il nous manque, j'ai oublié, le Higgs.
Voilà. Mais la force faible, voilà, c'est ce qui serait, on va dire, le nuage électronique autour d'un atome ?
Non, la force faible, c'est ce qui est responsable notamment de tout ce qui est des phénomènes radioactifs.
Radioactifs.
Le fait que le soleil, par exemple, puisse briller
voilà.
Et à l'interaction faible.
Fusion nucléaire, c'est...
Alors, voilà. Il y a aussi les forces fortes qui rentrent en ligne de jeu.
Très bien. Alors, on a quand même évoqué ce modèle standard. Qu'est-ce que ça veut dire en physique ? Modèle standard, parce que si il y a un modèle standard, moi j'imagine qu'il y a d'autres modèles qui ne sont pas standards.
En effet, enfin le modèle standard, c'est donc comme l'a dit Nathalie, c'est une théorie qui s'est construite tout le long de ces 40 années, hein, et qui essaye d'expliquer la façon dont la matière interagit entre elles et la façon dont les forces aussi se comportent.
Donc qui explique en fait tout phénomène qui concerne la matière dans l'univers.
Tout phénomène observable est normalement expliqué par le modèle standard. Mais bon, l'imagination des théoriciens est foisonnante, donc les théoriciens essayent toujours d'imaginer des modèles qui vont au-delà du modèle standard et qui essayerait de pallier les insuffisances du modèle actuel, du modèle standard.
De toute façon, modèle standard ou pas standard, l'un se nourrit de l'autre. On ne jette jamais un modèle complètement. L'évolution en physique fait que on s'inspire toujours de ce qui s'est passé avant, même si à un certain moment on n'explique pas tous les phénomènes. On se dit il y a un horizon d'application mathématique et on ne peut pas expliquer le phénomène qu'il y a après. Et donc là, on invente une autre physique.
C'est-à-dire qu'un modèle a un domaine de validité.
Voilà.
C'est un peu comme la gravitation de Newton. La gravitation de Newton explique très bien qu'une pomme tombe par terre. En revanche, elle a beaucoup plus de mal à expliquer ce qui se passe dans l'univers avec les planètes, les galaxies, des objets très très massifs.
Voilà, et puis si la pomme tout d'un coup se met à accélérer, voilà, on a du mal. Voilà, alors ça, effectivement, il a fallu attendre Einstein. Question spéciale à Pascal Paganini. Ce modèle standard vous agace un peu, en fait. Il marche trop bien.
Exactement. À titre personnel, je trouve que ça fait 40 ans donc, qu'on utilise ce fameux modèle standard et toutes les prédictions ont été vérifiées jusqu'à présent. La dernière à vérifier, c'est qu'il existe ce fameux boson de Higgs. Alors, et la plupart des révolutions en physique se sont faites quand justement les prédictions n'étaient pas vérifiées. Donc, moi, à titre personnel, j'ai envie que...
Vous êtes légèrement masochiste, hein, parce que vous créez un détecteur pour mettre en évidence, effectivement, que le boson de Higgs existe.
Oui, oui, alors ce serait une excellente chose que l'on trouve, puisque c'est une des justifications de ces détecteurs. Mais même si on ne le trouvait pas, je suis persuadé qu'on arriverait à mettre en évidence des phénomènes qu'on n'avait pas prévus, qui nous permettraient d'aller très loin dans les recherches théoriques.
Alors, juste un mot quand même sur Peter Higgs, Nathalie Besson. Il n'a pas été le seul, d'ailleurs, à prédire qu'il fallait une particule permettant d'expliquer la masse à d'autres particules. Et c'était une recherche et un concept qu'il a eu en commun avec d'autres théoriciens.
Oui, oui, tout à fait. Alors, lui, son but n'était pas de donner la masse aux particules. Dans le modèle, on est basé sur des symétries. Tous nos modèles théoriques reposent sur des symétries. Et
juste un mot sur la symétrie, c'est qu'est-ce qu'on appelle une symétrie?
Par exemple, quand je me regarde dans le miroir, je suis symétrique. Voilà. Alors, c'est des symétries un petit peu plus compliquées que ça. Il y en a une qui s'appelle la symétrie électrofaible dans notre modèle, peu importe le mot. Mais toujours est-il qu'à notre échelle d'énergie à nous, elle est ce qu'on appelle brisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là, alors qu'on sait qu'elle était là, à une autre échelle d'énergie, plus tôt dans l'histoire de l'univers. Et c'est ça que Peter Higgs cherchait à expliquer. Et le boson de Higgs a ça de magique qui doit agacer encore plus Pascal, c'est qu'il explique plein de choses dans le modèle. Il explique cette brisure de symétrie électrofaible, il explique la masse des particules, il explique ce qu'on appelle... il sauve l'unitarité du modèle. Enfin, il fait plein de choses qui réjouissent les théoriciens, et c'est vrai qu'il nous perturbe un petit peu.
pour effectivement essayer de découvrir quelque chose de nouveau, en fait.
Oui. RFI.
Dark collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose. Then we told each other with no trace of fear there. Our love.
Avec cette histoire d'étoiles à neutrons en collision. Et autour de la question, il n'est pas question de neutrons avec nos invités, mais de protons. Nathalie Besson, physicienne au CEA, et Pascal Paganini, physicien des particules au CNRS, pour découvrir et comprendre ce qui donne la masse à la matière qui nous entoure. Leurs expériences Atlas et CMS au LHC traquent donc cette particule qui se cache et se dérobe toujours, le boson de Higgs. En ce qui concerne Atlas, c'est un détecteur. On peut parler de ce qui fait son originalité. Et en fait, comment ça fonctionne un détecteur, Nathalie Besson?
Alors déjà, l'originalité d'Atlas, juste pour dire, c'est quand même quelque chose de colossal. Il fait plus de 40 mètres de long, il fait 25 mètres de diamètre. C'est une espèce d'immense cathédrale, plein de vide par rapport à CMS qui est compact, néanmoins très grand. Alors, un détecteur de particules... Alors d'abord, les particules, il faut les créer. Donc le LHC fait des collisions entre des protons. Au cours de cette collision, beaucoup de particules sont créées et nous, autour de ce point de collision, on met le détecteur qui a différentes couches de détection pour détecter différents types de particules. Et la façon de détecter quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est, si je prends une analogie simple, comme détecter le passage de l'homme invisible dans une piscine. L'homme invisible, je ne le verrai pas. En revanche, je verrai les vagues qu'il va faire. Et puis si j'ai un gros homme invisible, j'aurai des grosses vagues. Et un tout petit homme invisible, j'aurai des toutes petites vagues. Et c'est comme ça que ça marche.
Donc, ce détecteur, on parle évidemment de la puissance d'énergie donnée par le LHC. Hein, c'est-à-dire qu'il est, greffé sur le passage des faisceaux d'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est le réceptacle, quoi.
Exactement. Il y a des particules qui sont créées. On fait un détecteur qu'on dit le plus hermétique possible, c'est-à-dire on veut qu'il entoure le plus possible, faut pas de fuite, pour détecter le plus possible de choses qui sont créées lors des collisions.
Donc, on utilise une énergie colossale hein, pour que s'entrechoquent des particules élémentaires. Dans le cas du LHC, c'est les protons.
Oui.
Absolument, parce que tout simplement parce qu'ils sont chargés électriquement et c'est bien facile.
Ah bah, c'est quelque chose de pas chargé, on pourrait pas l'accélérer.
Voilà. Alors, on va parler de l'autre détecteur. J'ai remarqué sur le schéma qu'il était quasiment en opposition sur le cercle de l'accélérateur de particules. C'est complètement un hasard, on aurait pu le mettre n'importe où.
Oui, il y a que quelques points d'accès qui sont prévus autour de l'accélérateur et à l'occurrence, il y a quatre expériences qui sont installées. Et CMS et Atlas en font partie.
Et alors, le principe est le même sur le CMS, cet autre détecteur?
Tout à fait, le principe est exactement le même. Donc, les protons en question viennent interagir et se collisionnent au centre du détecteur.
Alors, ça crée beaucoup d'énergie.
J'aimerais juste revenir sur le fait de la notion d'énergie. Un proton, vu l'accélération qu'il a, pour le commun des mortels, finalement, c'est une énergie très faible. C'est l'équivalent d'un moustique qui vole. Donc, c'est une toute petite énergie. Évidemment, dans l'accélérateur au CERN, donc au LHC, il y a des milliards et des milliards de protons qui circulent. Donc, l'énergie du faisceau lui-même est colossal,
mais le nombre même des milliards, ça n'en fait pas un faisceau très dense. Hein.
Alors, on a tout autour de l'accélérateur, on a des aimants chargés justement de rendre ce faisceau le plus fin possible pour que la probabilité de collision soit la plus élevée possible.
C'est un fil.
C'est l'équivalent d'un fil.
Si on pouvait les mettre même en fil indienne, ça serait super.
Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on est quand même obligé, pour des raisons technologiques, de les mettre en petits paquets. On a environ 2800 petits paquets de protons qui circulent le long du LHC.
Alors, on étudie, comme le disait Nathalie, le déplacement des vagues de l'homme invisible dans nos détecteurs, les remous d'eau, les bulles d'air s'il respire. Mais est-ce qu'on est sûr que notre homme invisible, c'est-à-dire la particule qu'on recherche, existe vraiment?
Alors là, si elle laisse une trace, elle existe. Donc nous,
oui, mais est-ce que c'est bien celle-là? Comment après on identifie une particule par rapport aux traces laissées?
Alors notre théorie nous dit comment telle ou telle particule doit se désintégrer dans le détecteur. Et donc après on fait ce qu'on appelle des simulations, exactement comme les jeux vidéo, exactement comme les simulateurs de vol. Nous on fait un simulateur de ce qui se passe dans notre détecteur avec tout ce que nous dit la théorie pour nourrir ce simulateur et ensuite on compare.
Alors, j'imagine que les milliards de collisions entre protons ne sont pas suffisantes, en tout cas pour mener à bien notre chasse aux particules, surtout le boson de Higgs. Donc, il faut multiplier à l'infini, pas à l'infini parce qu'on espère avoir un résultat, ces collisions et engranger les données que nous ont données ces collisions dans les détecteurs.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on injecte énormément de protons dans le circuit du LHC et on a l'équivalent d'environ 800 millions de collisions par seconde. Et donc, à chaque fois, on analyse les données qui émanent de ces 800 millions de collisions. Évidemment, on ne peut pas stocker toutes les données correspondant à ces 800 millions. On doit faire beaucoup de filtrage. Et donc à la fin, on stocke environ 100 à 200.
Et après, la puissance du LHC, c'est aussi une puissance informatique. On en reparlera dans quelques instants. Le boson de Higgs, la chasse est ouverte. Ce sera juste après le rendez-vous avec l'actualité.